enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Imaginez qu'un jour, vous allez partir pour quelque temps. Vous allez vous absenter un peu longtemps, et puis vous avez un ami, et cet ami, il vous est très cher dans votre cœur. Alors, avant de partir, tout d'un coup, vous dites, tiens, avant de partir, je vais lui faire un cadeau. Alors, vous choisissez quelque chose de bien, comme vous connaissez ses goûts, vous fabriquez, enfin bref, quelque chose, ça vient vraiment de votre cœur. C'est une expression vraiment de l'affection que vous avez pour lui. Et puis quand c'est prêt, alors vous faites un joli paquet, avec un ruban même, tiens. Et puis vous allez lui donner ça, et quand vous lui donnez, il dit, oh, écoute, je suis sur le point de sortir, mais je l'ouvrirai en revenant. Et il le met sur l'étagère, sur sa bibliothèque. Et puis vous partez. Et puis jamais il ne vous dit plus tard ce qu'il a pensé de votre cadeau. Il ne vous en parle plus jamais. Et puis quand vous rentrez de voyage, très longtemps après, vous retournez le voir et vous voyez sur l'étagère, au même endroit, votre cadeau. Il est là, il est intact. Hein. Il l'a oublié. Il n'a même pas pensé à l'ouvrir. Alors vous êtes frustré. Non ? Ça, c'est vraiment frustrant. Donner à quelqu'un un cadeau, puis il ne le prend pas. Moi, je pense que ça fait du mal, c'est pénible. Alors ce matin, j'ai envie de parler un petit peu de la frustration. Les frustrés. Non, c'est pas nous, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il peut y avoir dans le monde, il peut y avoir des frustrés. Mais il peut aussi y en avoir dans l'Église. Nous pouvons, et nous sommes, soyons honnêtes, hein, nous avons une multitude d'occasions d'être frustrés, d'être amers. Et j'ai trouvé intéressant que le frère tout à l'heure qui a ouvert la parole de Dieu avant qu'on prenne le repas du Seigneur, a dit « Au ton de nos cœurs, toute amertume ». J'ai dit, ben voilà, c'est ça, il avait dû jeter un coup d'œil sur mes notes. Alors, et parce que l'amertume est quelque chose qui empoisonne. La Bible parle de racines d'amertume. Un jour, on était à l'église où je suis, à côté de Grenoble, et il y a un petit parking à côté de l'église, et quelquefois, quand il fait beau, on sort un peu des tables pliantes, puis on mange dehors. Alors, une fois comme ça, on allait manger dehors, et puis je vois quelqu'un qui arrivait avec un plat, et la personne marchant a buté sur un truc. Et je vois un autre qui passe au même endroit, et moi-même, je dis, mais c'est pas possible. Alors, ce sont des dalles comme ça, et il y en a une qui était, oh, pas beaucoup, hein, qui remontait de 2 cm comme ça. Mais comme c'est pas beaucoup, ça se voit pas. Et chaque personne qui arrivait à cet endroit-là, tout le monde trébuchait et manquait de tomber. Alors après, ben, on a enlevé ces dalles et on a vu qu'il y avait une racine d'un des cyprès qui était à côté, qui avait tellement gonflé qu'elle a fait remonter cette dalle. Alors on a dû couper cette racine. Mais ce que j'ai trouvé le plus curieux, c'est que ce jour-là, mon message dans l'église, c'était les racines d'amertume. Ouais. Les racines d'amertume qui nous font trébucher. Et nous sommes sortis de ce culte, ce même jour, hein, pas la semaine suivante, ce même jour, nous sommes sortis et nous avons tous trébuché sur une racine d'amertume dans le parking. Ah, celle-là, on l'a coupée, hein, je vous garantis. Hein. Et puis on a remis la machine. Mais l'amertume, et c'est exactement cette notion de racine est très très intéressante parce que par définition, une racine, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc on peut l'ignorer, on peut peut-être même ne pas savoir qu'elle est là. Le problème, c'est qu'elle y est et qu'elle produit des effets. Et que souvent, il y a évidemment un temps entre un délai de la racine au fruit, il y a un délai. Hein, la sève, ça coule pas comme dans le tuyau de la douche. Hein. Il faut du temps. Et puis le fruit, il faut aussi qu'il mette longtemps avant de se former. Mais alors quand un fruit d'amertume est formé, alors là, il est vraiment amer. Hein. C'est comme si vous essayiez de manger un pamplemousse en commençant par l'écorce, voyez. Alors là, c'est mauvais. Et cette odeur d'amertume nous reste après. L'apôtre Pierre a eu quelques problèmes avec ça. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'apôtre Pierre vis-à-vis de ça dans l'évangile de Matthieu. Parce que... Je voulais être sûr que vous sachiez que j'ai une Bible complète. Alors, nous allons lire d'abord dans Matthieu 14. Vous ne fermerez pas la page parce qu'on va lire, on lira rapidement, juste on sautera un petit peu d'un verset à l'autre. Hein. Matthieu 14, c'est au moment où Jésus a rejoint les disciples dans la barque en marchant sur l'eau. Et puis Pierre lui-même est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Ça c'est quand même un truc. Hein. On lit simplement verset 14-29. Hein. Jésus dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Voyez, et je me mets un petit peu à la place de Pierre, surtout quand il marche, pas tellement quand il s'enfonce, et j'imagine comment Pierre a dû recevoir cette parole de Jésus. Même si, à mon avis, je crois que Jésus l'a dit avec beaucoup de sympathie, hein, beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur. C'est même s'il y a comme un petit reproche, mais c'est plutôt une exhortation. Il aurait pu encore faire mieux, voyez. Mais pour Pierre, c'est quand même difficile à entendre. Il a fait, semble-t-il, j'allais dire, un bel effort. Il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Et plutôt que Jésus lui dise, vraiment formidable, alors toi, t'es un mec, hein. Les autres derrière, ils n'ont pas bronché, mais alors toi, t'es venu, c'est bien. Jésus lui dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Et même après, Pierre, il veut dire quand même, c'est quand même, moi, je fais des trucs, je me décarcasse, je fonce et tout, c'est pour encore m'entendre dire que j'ai une petite foi, ça va pas. Hein. Au chapitre suivant, chapitre 15, enfin, oui, chapitre 15, verset 14, Jésus donne une espèce de toute petite parabole, il dit, laissez-les, parlant des pharisiens, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et évidemment, si un aveugle conduit un aveugle, eh ben, ils vont tomber tous les deux dans une fosse. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Là, il a regretté d'avoir perdu une occasion de se taire. Hein. Êtes-vous encore sans intelligence? Il pose une question, quoi. Enfin, il n'a pas compris, il pose une question. Et c'est pas que Jésus l'ait dit avec agressivité, mais voyez, Jésus devait faire constamment un effort pour se mettre au niveau de ses disciples. Et quelquefois, pour lui, c'était une surprise Une surprise qui se répétait de voir à la fois leur incapacité à comprendre, leur incapacité à accepter, leur incapacité à rentrer dans le spirituel. Et Jésus ne dit pas « êtes-vous sans intelligence ?» Il ne leur a pas dit « oh, mais vous êtes bêtes ou quoi ?» Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire comment ça se fait-il que votre intelligence n'entre pas, ne connecte pas, ne se mette pas au niveau, au diapason, ne soit pas en harmonie avec ce que je vous explique. N'empêche que globalement, même en tournant dans tous les sens, de toute façon, c'est pas un compliment, quoi. Hein? Êtes-vous encore sans intelligence? Pierre encaisse encore un coup. Après, vous avez au chapitre 16. Au chapitre 16. Jésus a demandé, discute avec les disciples, et au verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit « Heureux Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Parce que Pierre venait de déclarer que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais au verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Pierre, l'ayant pris à part, se met à reprendre Jésus et lui dire « Mais non, ça ne va pas se passer comme ça, alors là, que Dieu nous garde de ça, Seigneur, ça n'arrivera pas. » Mais Jésus se retourne, il lui tourne le dos et il dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez, ici, je pense que c'est beaucoup plus... C'est plus difficile pour Pierre. Parce que, dans un premier temps, tout ça, c'est quasiment la même conversation. Dans un premier temps, il a reconnu que Jésus est le Christ, hein. Et après cela, Jésus a commencé à leur exposer son plan. Il dit, il faut qu'il meure. Et Pierre, qui vivait avec Jésus dans une relation vraiment d'amitié, qui aimait Jésus, il était blessé, il était peiné de penser que Jésus pourrait, comme lui le comprenait, échouer, et puis qu'il souffre, qu'il soit mis à mort, etc. C'est atroce, remarquez, c'est normal. Imaginez que vous pensiez à un de vos amis, et qu'on suppose qu'ils doivent souffrir de la sorte. Évidemment, on voudrait tout faire pour l'empêcher. C'est la réaction, évidemment, légitime, normale. Alors Pierre a pris à part Jésus, et puis il lui dit, ah non, non, et il a pris Dieu à témoin, que Dieu évite cela, que à Dieu ne plaise, ça n'arrive pas. Mais Jésus était constamment dans ce qu'on appelle le combat spirituel, pas d'une façon mystique dans des stratosphères là, mais dans la réalité, dans le concret, dans le vécu. Et Jésus a discerné que à travers ce que Pierre lui disait, le diable était en train d'essayer de le dissuader d'aller sur le chemin de la croix. Il a compris que c'est pas seulement Pierre qui est en train de le dire par sa bonne volonté, mais que derrière ça, le diable agit. Vous voyez, même si Jésus a dit arrière de moi Satan en parlant à Pierre, c'est pas, il a pas qualifié Pierre de Satan, vous comprenez bien. Jésus, ce verset ne veut pas dire du tout qu'il y aurait eu dans Pierre un diable, hein, qu'il y aurait eu un démon en lui, c'est pas ça. Ce qu'il veut dire, c'est que, parce que Pierre n'a pas compris, parce que Pierre n'est pas rentré dans le plan de Dieu, le diable a trouvé le moyen d'exercer sur lui une influence et d'utiliser ses paroles. Le diable se véhicule dans les paroles que Pierre est en train de dire. Et c'est ça que Jésus discerne à travers ça. Donc c'est pas directement à Pierre que Jésus s'oppose en disant « arrière de moi ». C'est au diable, du reste, il dit « arrière de moi, Satan ». Mais après, il explique à Pierre, il lui dit « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Les hommes pensent que le fils de l'homme, le Messie, doit être vainqueur. Les hommes pensent qu'il ne doit pas souffrir. Les hommes pensent que c'est un scandale, que c'est pas juste, c'est pas normal qu'il meure. Hein. Mais c'est pas le plan de Dieu. Mais c'est encore une fois un petit peu, c'est encore une fois une gifle pour Pierre. Vous voyez, il est dans la pensée de vouloir défendre son ami, il veut le soutenir, il veut lui prouver qu'il l'aime, il veut pas qu'il lui arrive du mal, mais moi je veux pas qu'il t'arrive du mal, je veux pas que tu souffres. Et Jésus se détourne pour chasser le diable. Pierre devait être vraiment d'abord déconcerté. Je pense qu'il était déconcerté, là il savait plus bien où il en était, il savait plus quoi penser. Et puis il y a un côté, devant ses petits camarades, il y a un côté humiliant, parce que les autres sont là aussi. Alors lui qui pensait souvent qu'il était un petit peu le meilleur, là, il est reparti à la case départ, quoi. Hein. Et puis avec Jésus, du coup il est dans un trouble. C'est un ami, mais c'est un ami qui ne veut pas qu'on l'aide à ne pas souffrir. C'est difficile à comprendre. Et tout ça crée en lui quelque chose qui tourne et qui est un peu difficile. Après, au chapitre 18, c'est peut-être un peu moins net, ne cherchez pas, mais vous savez, Pierre a dit à Jésus, pardonnerai-je à mon frère jusqu'à 7 fois. Il se dit là, j'ai fait une bonne question. J'ai dit 7 fois, ça prouve que spirituellement, je vois loin quand même. Mais Jésus dit non, Pierre, non, pas 7 fois. Là, dans un premier temps, il était rassuré. Hein. Il s'est dit, bon, on va peut-être dire 3, je sais pas. Jésus dit 70 fois 7. Et encore une fois, pour Pierre, et encore une fois, c'est l'inverse de ce qu'il a dit. Là, c'est plutôt sa compréhension qui est mise en défaut. Bon, mais passons rapidement. Au chapitre 19, au verset 27, on voit mieux son désarroi. Jésus a parlé des richesses. Il dit que c'est très difficile, c'est pas possible de rentrer dans le royaume de Dieu si on est encombré de richesses, comme un chameau qui devrait passer par le trou d'une aiguille. Et Jésus a dit ensuite que c'était tellement difficile, les disciples commençaient à avoir peur. À la fin, ils disent, bon, mais finalement, qui c'est qui peut être sauvé? Et Jésus leur dit, aux hommes, c'est impossible, hein, mais à Dieu, tout est possible. Alors au verset 27, Pierre prenant alors la parole dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Là encore, on voit son inquiétude, son trouble, son embarras. Parce que on mesure pas toujours à quel point ceux qui ont tout quitté pour suivre Jésus se sont réellement engagés. Ils ont quitté leur village, ça veut dire qu'ils ont laissé leur travail, ils ont laissé leur outil de travail, ils ont laissé leur situation, ils ont laissé leur notoriété, ils ont laissé leur place sociale, ils ont laissé leur réputation, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur réputation. Pour beaucoup, ils sont maintenant jugés, ils sont regardés comme des farfelus, tu sais, le gars de la bande à Jésus, là. Ils sont regardés un peu comme des pas bien, des hérétiques en plus, etc. Et puis ils se disent maintenant, en écoutant Jésus, ils disent mais au fond, est-ce qu'on a bien fait? Ça sert à quoi? J'ai l'impression que d'après ce qu'il dit, de toute façon, qui peut être sauvé? On a tout quitté. Est-ce que ça sert à quelque chose? Et des fois, il y a des chrétiens qui se disent ça. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Est-ce que ça change quelque chose? Il y a des gens autour de moi qui n'en ont pas fait le cas. Ils ont l'air de vivre aussi bien. Ils ont l'air d'être cool. Ça va bien dans leur vie. Ils vivent socialement, ils vivent bien, tranquillement. Moi, je galère. Lui, il sait même pas vraiment. Il a rien abandonné pour le Seigneur. Ben, il va bien. Il change de voiture quand il veut. Et nous, on tire la ficelle. Et est-ce que nous, on a tout laissé pour le Seigneur? Qu'est-ce qui nous revient? Qu'est-ce qu'il en sera pour nous? Alors je dis, est-ce que j'en ai pas fait trop, peut-être? Ouais. Puis le malin, nous, si on se pose pas la question, il nous la rappelle. Hein? Un peu plus loin, au chapitre 26. Chapitre 26. Verset 50. On est au moment de l'arrestation de Jésus. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée et il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Et la fin du verset 56 dit, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voyez, d'abord, un tout petit truc là, qui me revient. Jésus répondit à Judas, mon ami. Là, il faut savoir, c'est une toute petite parenthèse, hein. Mon ami, ici en grec, ça n'a pas du tout le sens de l'amitié. Hein. Ne croyez pas que Jésus a appelé Judas son ami. C'est pas son ami, c'est parce qu'en français, on ne sait pas quoi dire d'autre. Mais ici, c'est un mot qui a seulement le sens de l'interjection. Hein, c'est pas du tout sur la base de philos qui veut dire ami. C'est un mot comme c'est l'équivalent en français de quelqu'un d'Interflora vous apporte des fleurs et puis avant de partir vous lui donnez une pièce en disant tenez mon ami. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est pas votre ami, vous l'avez jamais vu, vous le reverrez jamais plus. Deux minutes après que vous ayez fermé la porte, vous vous rappelez même plus à quoi il ressemble. C'est pas un ami. Ça ici, mon ami ici, c'est dans ce sens-là. Jésus n'a pas dit à Judas qu'il était son ami, ok? Bon, c'est une parenthèse, je ferme, c'est fini. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que, et ça peut-être qu'aussi ça mérite d'être souligné par rapport à Pierre, puisque c'est Pierre, hein, on sait que c'est lui hein, là qui a sorti son épée, quand ils étaient encore dans la prière le soir pendant le dernier repas, Jésus avait parlé d'épées et deux des disciples ont dit « Ouais, ben nous on en a des épées, on a pris deux épées avec nous. » hein, parce qu'ils sentaient que les choses étaient en train de se gâter. Ils ont dit « En tout cas, on va défendre chèrement notre peau, tu vas voir. Ils vont pas nous attraper comme ça, hein ?» Oui, c'était spirituel, mais pratique. Alors, bien sûr, aussi encore quand on dit une épée, nous, on pense aux épées style peut-être Jeux Olympiques, vous voyez, les longs fleurets comme ça, ou genre du Guesclin, je sais pas. Non, l'épée, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire? Aujourd'hui, ça correspondrait à un grand couteau de boucher bien long, là. Voilà, hein, le gladius, c'est un... voilà. Donc ça peut facilement hein, s'accrocher à la ceinture, et puis sur une tunique, sur un manteau, ça se voit pas trop. Mais en cas de besoin, hop, c'est vite fait. Alors, Pierre tire son épée, et parce que c'est son caractère, hein, ça c'est le gars qui est, c'est son caractère, c'est un impulsif, il n'a pas réfléchi deux minutes, il a dit bon ben c'est le moment, et il se jette dans le tas quoi, dans la mêlée. Et je suis sûr qu'aujourd'hui il aurait fait du rugby, ce gars. Et il fonce, hein, il leur fonce dedans, il a sorti son épée, il y va, et il a coupé l'oreille, même emporté, donc je sais pas, est-ce que le morceau, je sais pas. En tout cas, il a coupé l'oreille du serviteur du grand sacrificateur, c'est-à-dire tous ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus. Et croyez-moi, s'il lui a coupé l'oreille, c'est pas parce qu'il visait l'oreille, hein. S'il avait pu, l'autre, c'était grave pour lui, hein. Mais il a eu la bonne idée d'esquiver, et finalement, il lui a attrapé que l'oreille. Mais ça veut dire que Pierre, là, à ce moment-là, Pierre était réellement en train de donner sa vie pour Jésus. Voyez ? Pierre est en train de mettre sa vie sur l'autel pour Jésus. Si ce n'est pas Jésus qui avait apporté une suite d'interventions miraculeuses pour le sauver là dans le jardin, Pierre ne serait même pas sorti vivant de cet épisode. Je ne pense pas que les Romains l'auraient même pas laissé sortir vivant de ce jardin. Ils l'auraient exécuté, ils l'auraient massacré là sur place parce qu'il les a agressés. Il les a agressés. C'est quand même des gens qui arrivent avec un mandat. Ce sont des officiels. Et Pierre les agresse, hein, les agresse par la force, par la violence. Ils étaient même en droit, j'allais dire, même au sens juridique du terme, ils étaient eux maintenant en légitime défense. Hein. En tout cas, au moins, il l'aurait attrapé, ligoté et il l'aurait exécuté le lendemain pour agression sur les forces de l'ordre. Vous savez, l'époque romaine, on rigole pas avec ça. Ça veut dire, je reviens à mon exemple de l'introduction tout à l'heure. Pierre est en train d'offrir, à ce moment-là, il offre sa vie à Jésus. Mais Jésus n'a pas pris son cadeau. Jésus dit non. Non. Je ne veux pas que tu me défendes. Et il a même guéri l'homme qui avait été blessé. Et Jésus a ensuite pris autorité pour que ses disciples puissent sortir du jardin. Il a dit, si c'est moi que vous arrêtez, ceux-là, vous les laissez filer. Et miraculeusement, on les a laissés partir. Alors, ils sont partis et ils se sont enfuis, ils l'ont abandonné. Mais pour Pierre, c'est encore, ça je pense que c'est quelque chose de très difficile. D'un certain côté, on peut dire qu'il a sauvé sa peau. Ok, il a sauvé sa vie, mais c'est pas pour ça que ça le rassure. Ça veut dire que il a voulu faire quelque chose de grand, de profond. Il a voulu offrir sa vie pour son ami, il a voulu le défendre, et son ami n'a pas voulu. Il ne l'a pas pris. Et Pierre, je pense là, il y a quelque chose d'amer qui remplit son cœur. Comment comprendre ce Jésus à qui on ne peut rien faire, pour qui on ne peut rien faire, à qui on ne peut rien donner? Et puis vous connaissez encore un épisode un peu plus loin, lorsque, toujours dans le même chapitre, hein, au verset 69, hein, pendant qu'on était en train de juger Jésus, le fameux procès truqué, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Hein, et une servante s'approche de lui et lui dit, mais dis donc, t'es pas avec Jésus, le Galiléen? Mais lui, il a nié devant tous. Il dit, hein? Mais de quoi tu me parles? Je sais pas. Et il se dirigeait vers la porte. Hein, parce qu'il a senti que c'était le moment. Mais une autre servante le voit et dit à ceux qui se trouvent, dites les gars, celui-là, moi je le connais, il était aussi avec Jésus de Nazareth. Alors il a commencé à nier avec serment. Il a dit, mais non, je vous jure, je connais pas ce type, j'en sais rien moi. Et peu après, ceux qui étaient là s'approchent et disent, ah bien sûr, toi aussi tu fais partie de la bande à Jésus là. D'abord t'as l'accent de là-bas, ouais, on te reconnaît bien. Alors il se met à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Des imprécations, ça veut dire je le jure sur la tête de ma mère, voyez, ou je sais pas ce qu'il disait à ce moment-là. Et puis puis j'en ai rien à fiche, etc. C'est grave, hein. Le texte est très sobre, mais dans l'expression, c'est grave. Et aussitôt, quand il a eu fini, c'était trois fois qu'il reniait Jésus. Alors on a entendu le coq chanter. Le jour arrivait. Et Jésus avait dit à Pierre, tu crois que tu es très fort. Mais tu vois, cette nuit, là, aujourd'hui, avant qu'il fasse jour, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Pierre avait dit, ah non, ça jamais, jamais, devant Dieu, jamais. Maintenant c'était fait. Et le coq chante. Et immédiatement, alors son esprit lui est revenu, il s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit, et étant sorti, il pleura amèrement. Là encore, c'est un miracle. Étant sorti comment? Tout le monde l'avait reconnu. Tout le monde voulait l'arrêter. Il est dans une cour fermée, il y a quelqu'un qui garde la porte. Comment ça se fait qu'ils l'ont laissé sortir? Mais Jésus avait dit, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. Jésus, c'est Jésus qui a pris encore autorité pour que le traître, celui qui venait de le renier, puisse sortir encore. C'est encore Jésus attaché dans l'autre coin de la même cour. C'est encore Jésus qui est intervenu pour que Pierre puisse sortir. Mais est-ce que vous avez remarqué l'adverbe? On dit, étant sorti, il pleura amèrement. Parce que je crois que Pierre avait accumulé beaucoup d'amertume. Les circonstances l'ont aidé à accumuler de l'amertume. Son incompréhension du plan de Dieu l'a aidé à accumuler de l'amertume. Ses fautes de caractère l'ont aidé à accumuler de l'amertume. Son refus d'entendre et de comprendre les paroles de Dieu, son orgueil l'ont aidé à être rempli d'amertume. Et maintenant, il est amer envers lui-même. Maintenant, il est amer parce qu'il le reconnaît. Tout d'un coup, il se découvre tel qu'il est. Il découvre qu'il voyez l'image de lui-même qu'il s'était fabriqué, derrière laquelle il s'était caché, le personnage Pierre qu'il croyait être et qu'il essayait de projeter vers les autres, là, en un instant, ce personnage s'est écroulé et maintenant, pour la première fois, Pierre se retrouve face à lui-même. Et il se rend compte maintenant qu'il est un pauvre type. Il se rend compte qu'il est capable de renier son meilleur ami. Il se rend compte qu'il est capable d'être lâche pour sauver sa peau. Il se rend compte qu'il est capable de mentir. Il se rend compte qu'il n'est pas le personnage courageux, prêt à aller jusqu'au bout, un héros, un type bien, il se rend compte qu'il est quelqu'un d'ordinaire, qu'il est quelqu'un qui peut faire le pire. C'était vrai. Jésus, c'est tout pour lui. Depuis des années, c'est tout pour lui. Il l'aime. Et tout d'un coup, et vous savez, quand Pierre a dit toutes ces choses, toutes ces imprécations, c'était aux oreilles de Jésus lui-même. Jésus l'a entendu dire. Ils étaient dans la même petite cour. Jésus était attaché dans un coin et Pierre était à côté du feu peut-être à 10 mètres. Et quand un autre évangile dit que quand Pierre a eu fini, alors Jésus l'a regardé. Et là, leurs regards se sont croisés comme ça. Vous imaginez ce qui s'est passé à ce moment-là dans son cœur, quand vous venez de dire quasiment face à face de quelqu'un qui est votre meilleur ami, que vous n'en avez rien à foutre. Alors là, Pierre est sorti. Mais il a pleuré et son amertume a commencé à sortir. Et voyez, j'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, nous avons tous eu des tas d'occasions d'avoir de l'amertume. Pas toujours par notre faute, parce que la vie est difficile, parce que le monde est dur, parce que ceux qui nous entourent ne sont pas toujours ce qu'on voudrait, et nous avons tous eu une multitude d'occasions d'être déçus. Moi, je vais vous dire franchement, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup déçu. Et une personne qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup déçu. Et à un moment, c'était lourd, hein. Je vais vous dire qui c'est. Eh bien, c'était moi-même. Je me suis dit, non, c'est vrai, à un moment, je me suis dit, t'es vraiment pas comme je m'attendais, hein. Bon, puis après on s'est expliqué, tout ça. Bon. Mais je me suis beaucoup déçu moi-même. Et quand je me suis rendu compte que j'étais capable de beaucoup me décevoir, alors j'ai aussi pris conscience que j'avais sûrement été capable de beaucoup décevoir les autres. Parce que si je me suis déçu moi-même, envers qui pourtant normalement j'ai de bonnes intentions, ça veut dire forcément, logiquement, que j'ai déçu les autres. Alors maintenant, je comprends pourquoi les autres m'ont déçu. Quelquefois. Mais pas toujours, hein. Mais parce que nous nous décevons. Quand j'étais en Afrique, à un moment, je ne sais plus où c'était, en RCA, on chantait le monde entier te décevra. Ton pasteur te décevra. C'est pas bon, hein. Ton mari te décevra. Aïe, aïe, aïe. Ta voiture te décevra. Les choses de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Les choses de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Ton épouse te décevra, tes anciens te décevront. Les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Tout le monde nous déçoit. Et Dieu a été aussi déçu. Est-ce que vous savez que Dieu a été aussi déçu? Tiens, on peut lire Ésaïe 5. Ésaïe, chapitre 5. Verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, il a ôté les pierres et il y a mis un bon plan. Il a bâti une tour au milieu, il a creusé aussi une cuve et il espéra qu'elle produirait de bons fruits. Mais elle en a produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, alors que j'ai espéré qu'elle produirait des bons fruits, des bons raisins, pourquoi est-ce qu'elle en a produit des mauvais? Et au verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Dieu avait espéré de la droiture. Et voilà, c'est du sang versé. Il avait espéré de la justice. Hein, et c'est des cris de détresse. Rien que dans ce petit chapitre, on voit que trois fois, Dieu a espéré quelque chose qui n'est pas arrivé. Dieu a été frustré dans son attente. Dieu a été déçu dans son espérance. Mais comment Dieu a réagi? Alors, il a réagi en appliquant les corrections qui étaient nécessaires. Mais vous remarquez qu'il n'a pas pour autant coupé avec Israël. Il l'a pas abandonné, il l'a pas rejeté, ça n'a pas été fini définitivement. Il a fait ce qu'il devait faire pour le faire changer. Mais plus tard, il l'a retrouvé et il l'a rechangé. Comment réagissons-nous quand nous avons été déçus, quand nous sommes rendus amers? Jésus a été, combien de fois Jésus a été déçu? Et un jour, il a dit aux disciples, jusqu'à quand je serai avec vous? Mais combien de temps il faudra que je vous supporte? Mais pourtant, il a continué de les aimer. Pourtant, il a continué. Jésus, vous voyez que les gens l'abandonnaient. Ils voyaient qu'il n'était pas compris. Ils voyaient que même ceux qui le suivaient, souvent, c'était par pur intérêt. Dans un passage, on dit que Jésus ne se fiait pas à eux. Il n'avait pas confiance parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais pourtant, Jésus a réagi, non pas en fonction de ça, mais il a réagi dans l'esprit opposé. Et ce que j'aimerais juste dire ce matin, c'est qu'il nous faut faire bien attention à ne jamais laisser quelque chose d'amer demeurer dans notre cœur. Ne gardez pas d'amertume contre quiconque et ne gardez pas d'amertume contre vous-même. Ne gardez pas d'amertume contre vous-même. Sortez de ça, ou plutôt faites-le sortir de vous-même. N'acceptez pas de vous en vouloir à vous-même. S'il y a quelque chose où il faut demander pardon à Dieu, eh bien on demande pardon. Mais on croit, c'est ça la foi. On croit que quand on a demandé pardon de quelque chose qu'on a mal fait, eh bien on croit que Dieu nous a pardonné. Et si ensuite on continue de se sentir coupable, il ne faut pas redemander pardon, il faut prendre autorité lutter contre le sentiment de culpabilité. Vous dire non, j'ai demandé pardon à Dieu. Je lui ai demandé qu'il me débarrasse de cette faute. Et le sang de Jésus est en moi pour me libérer et pour me laver. Je crois au pardon de Dieu. Donc je ne suis plus coupable. Donc je suis libre. Donc si je me sens coupable maintenant, ce sentiment est un mensonge et je chasse ce sentiment. Tu sors de moi. Lutter contre les racines d'amertume. Lutter contre l'amertume. N'acceptez pas d'être amer envers quelqu'un. Vous avez des gens autour de vous qui vous ont blessé. C'est peut-être votre mari, votre femme. Les gens qui peuvent nous rendre le plus amers, c'est les gens qui nous sont les plus proches. Parce que c'est eux qui ont véritablement un accès à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si quelqu'un dans la rue qu'on n'a jamais vu, dans la vue sur un trottoir, un inconnu dit « Dis donc, t'as l'air moche !» Eh ben, on dit « Il est qui ce type ? Il est fou, on s'en fout !» Hein ? Bon, ça fait pas plaisir quand même. Mais je veux dire, ça ne change pas grand-chose. Hein ? Mais... Non, je pense à autre chose. Mais si c'est à l'intérieur, si c'est à l'intérieur de la maison, si c'est à l'intérieur de la maison, si c'est ton mari, quand tu t'apprêtes à partir, tu t'es bien pomponné, tu te regardes, il dit, ça ne te va pas du tout ce truc, hein? Ça a été coupé dans un sac? Là, c'est dur. Là, c'est dur. Alors là, les racines poussent, dépêchent d'essayer de trouver de la place au fond. Il nous faut savoir que nous avons déçu les autres pour bien comprendre pourquoi les autres nous ont déçus, parce qu'ils sont comme nous. Mais il faut qu'on demande vraiment à Dieu d'avoir une détermination. Et ça, vous savez, c'est pas simplement le truc de dire un jour, je vais prendre une décision, puis je vais me sortir de ça. D'accord, il faut prendre cette décision. Mais c'est surtout la décision ensuite de traiter le problème continuellement au jour le jour. C'est pas quelque chose qui se fait une fois, on lève la main, ok. Non, ça c'est un travail, ça fait partie du travail quotidien pour lutter contre l'amertume. Demandez au Seigneur qui vous aide. S'il y a quelque chose des fois qui vous revient, vous êtes en train de vous repenser à quelque chose, quelqu'un vous parle d'une situation et ça vous revient, vous sentez qu'il y a un sentiment tout d'un coup, alors que 5 minutes avant vous étiez content, joyeux, tout d'un coup vous sentez plus joyeux, vous avez l'impression, attention, tiling, ça doit faire allumer une petite lumière rouge. Il y a un truc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, voilà, et des fois c'est parce qu'on ressent, on se remet dans un état d'esprit où on avait été blessé. On se remet dans un état d'esprit comme ça. Et si on traite ces choses constamment, au fur et à mesure, alors si on les traite au fur et à mesure, on ne leur laisse pas prendre de la place. Mais si vous leur laissez prendre de la place, plus tard, l'amertume est là, mais à la limite, vous ne savez même plus quand et comment elle a commencé à se développer. Et c'est plus difficile à régler. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Si aujourd'hui je disais quels sont ceux d'entre vous qui se sentent blessés, mais peut-être qu'il y aurait autant de mains qu'il y aurait de personnes ici. Peut-être plus s'il y en a qui lèvent les deux. Mais ce n'est pas le tout de dire j'ai été blessé. On a été blessé, d'accord. Mais Dieu a été blessé aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi dans l'esprit opposé. Il a décidé de ne pas rester dans cet état-là. Et c'est notre responsabilité aussi. Vous savez, la foi, on pense souvent, quand on parle de foi, on pense souvent au miracle, au prodige, à la guérison, et c'est juste. Mais c'est pas uniquement ce domaine. Croire pour soi-même, au-dedans de soi, que Dieu nous a pardonné, c'est la foi aussi. Et quelquefois, ça exige une grosse énergie de foi. Croire que Dieu peut rétablir des relations, des fois, ça exige aussi des grandes quantités de foi. Et Dieu va nous aider à trouver la source en lui. Je voudrais simplement vous inviter ce matin à dire, Seigneur, je ne voudrais pas ne pas être lucide avec moi-même. Je ne veux pas me faire des illusions avec ce qui se passe au-dedans de moi. Je veux être conscient de ce qu'il y a en moi-même. Je veux être objectif. Aide-moi, Seigneur, à me rendre compte. Si j'entretiens quoi que ce soit d'aigrin contre quelqu'un, c'est souvent vers les plus proches. C'est quelquefois c'est des parents, par exemple, qui avaient tellement pensé que leur enfant, leur fils, leur fille deviendrait ceci, cela. Alors ils se sont investis pour qu'ils deviennent, je sais pas moi, ingénieur ou je sais pas quoi. Après, le fiston a fait un an ou deux d'études, et puis au bout de 2 ans, il dit, tu sais, papa, moi, ce que j'aime, c'est le dessin, la musique, je vais faire les beaux-arts. Alors les parents, ils disent, on s'est saigné aux 4 veines, pour qu'il devienne vraiment, qu'il ait vraiment quelque chose. Et le voilà parti à faire des gribouillages. Alors, ils ont l'impression d'avoir été trahis dans leur attente. Hein. Et puis, dans les foyers, on a des causes d'amertume. Et puis, dans le travail, vous avez des gens qui sont... Ils se sont donnés dans leur travail. Quelqu'un de ma famille, là, a trouvé un travail et le patron lui a fait des éloges, parce que c'est un truc de vente. Alors, évidemment, les managers qui ont compris le truc, quand vous travaillez dans la vente, ils vous font toujours des compliments, parce qu'ils savent que c'est une bonne manière de vous motiver. OK ? Et puis, tout d'un coup, d'un jour à l'autre... Tout d'un coup, ils vous disent d'un seul coup que tout votre travail est nul. Et alors là, vous savez que demain, vous êtes renvoyé. Et ça rend amer. Ça rend amer. Parce que tout d'un coup, on comprend qu'en réalité, on a été manipulé. On était juste un pion qu'on essayait de faire produire le plus possible. Et puis, le jour où on n'en a plus besoin, comme une canette vide, on l'a pris, on l'a balancé comme ça. Alors après, on a de l'amertume. On se dit, ben, si j'avais su, tiens, je me suis décarcassé comme ça, ben, si j'avais su, j'aurais été cool, hein. Pour me faire jeter comme ça, c'est dégoûtant. Alors, on a de l'amertume. Et il faut pas garder ça. Après, souvent, ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est qu'on dit, bon, allez, je veux plus y penser. Mais c'est pas suffisant de pas y penser. Parce que si la racine est rentrée, elle y est. Donc il suffit pas de dire je veux plus y penser, il faut dire il faut que je la coupe, il faut que je l'arrache, il faut que je l'enlève, et il faut que tu l'apportes au Seigneur. Tu dis Seigneur, tu vois dans mon identité, je me suis senti dévalorisé, je me suis senti trahi, j'ai senti qu'on avait profité de moi. Ben Seigneur, c'est toi tu as été trompé aussi par les hommes. On a eu de l'intérêt avec toi. Ben, je te demande, Seigneur, de me débarrasser de ça. Je veux être libre de ça. Je veux prier pour ces gens. Et prie pour eux. Prie pour eux. Il faut constamment prier pour les gens qui nous ont blessés. C'est une des meilleures méthodes. Prier jusqu'à ce qu'on puisse savoir qu'on les bénit à 100%. J'ai entendu une fois un pasteur qui a eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'ensemble du corps pastoral. Si bien que pendant un moment, il avait pris un comportement très marginal. Il fonctionnait tout seul. Et puis quand même, après quelques années, un jour, il était de retour pour la première fois dans une pastorale au milieu de ses collègues. Alors tout le monde le regardait avec un peu d'intérêt. On lui a demandé s'il y avait quelque chose à dire. Il a dit, écoutez mes frères, je vais vous dire, franchement. Il dit, franchement, je vous en ai beaucoup voulu. Mais un jour, j'ai décidé que j'allais prier pour chacun d'entre vous. Alors j'ai fait une liste et j'ai commencé à prier pour vous. Jusqu'à ce que je puisse chacun le bénir à 100%. Savoir que je le bénis à 100%. Que je le souhaite de la bénédiction dans tous les domaines. Et il dit, pour la plupart, j'y suis arrivé. Mais il a dit, bien honnêtement, pour quelques-uns, je travaille encore. Mais c'est honnête. Mais il a affronté son problème. Il a affronté son problème. Affronte le tien. Regarde la réalité. Ne laissons pas, la Bible dit, ne laissons pas des racines d'amertume produire un mauvais fruit qui infectera encore ensuite les autres, qui va infester l'Église, qui va détruire nos relations et qui va nous empêcher d'être des adorateurs. Vous ne pouvez pas être amer et adorateur. C'est pas possible. Il y en a qui disent, ouais, mais dans l'adoration... Quand il y a des moments vraiment d'adoration puissants, à la fin, le pasteur monte sur l'estrade et dit « Frères et sœurs, on a passé un moment vraiment extraordinaire. Vraiment, le Seigneur était là. Peut-être encore, il est tout ému. » Et puis l'autre, il est au milieu, il dit « Mais Moi, j'ai rien senti. Moi, j'ai rien senti. Alors, quand il y a des moments d'adoration, il regarde autour de lui, il voit les autres qui sont là, ils sont au ciel. Il lui regarde. Tu sais pourquoi tu as du mal à adorer? Parce qu'on ne peut pas adorer et être amer en même temps. Ce n'est pas possible. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi, libère-toi. Et le Seigneur va t'aider. Amen. Seigneur, nous voulons te demander de nous donner un cœur simple, hein, un cœur pur, hein, un cœur droit. Seigneur, pour que nous soyons vraiment, vraiment tranquilles. Aide-nous, Seigneur, à être indulgents avec notre prochain. Aide-nous à être indulgents. Aide-nous, Seigneur, à ne pas comptabiliser ses fautes, hein, mais avoir toujours envie de le bénir, hein, à être compatissant. Aide-nous, Seigneur, à ne pas juger. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être susceptible, hein. Seigneur, à être simple, hein. Seigneur, merci pour tous les gens que tu as mis autour de nous, dans l'église, dans notre famille, et puis alentour aussi. Je voudrais prier, Seigneur, te demander que tous ceux au milieu de nous qui ont besoin d'être dégagés de toutes sortes d'amertumes, ça peut remonter à leur petite enfance. Des fois, c'est des histoires d'il y a 50 ans, 70 ans. Merci, Seigneur, donne-leur de prendre la force maintenant, d'amener tout ça à la lumière, hein, de soulever la dalle pour voir la racine d'amertume qui est là, pour la couper au nom de Jésus, pour pardonner au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ceux qui sont liés par de l'amertume, au nom de Jésus, maintenant, en même temps que je le dis, dites au Seigneur, hein, Seigneur, je renonce à l'amertume, je renonce à l'amertume, je renonce à l'amertume, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends autorité, Père, au nom de Jésus-Christ, hein, contre toute puissance d'amertume, hein, toute puissance d'amertume, au nom de Jésus. Maintenant, je vous lis, je vous brise au nom de Jésus. Tous ceux qui ont renoncé à l'amertume, maintenant soyez libres au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.